Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
Et attention, car cette semaine, nous ne sommes plus deux, mais quatre.
Oh, c'est la fête.
Ah oui, faites péter le champagne. Salut Morgan.
Salut, salut.
Et salut Ben.
Salut à tous.
La maison, tout ça, ça va bien?
Ça avance, ça avance.
Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter de Seven Dragon Saga. Toujours à propos de Kickstarter, nous évoquerons le successeur spirituel de Banjo et Kazooie. Nous enchaînerons ensuite sur Adrift. Du côté de chez Steam, nous évoquerons la déclaration de guerre de Valve envers les échanges de clés russes. Du côté de la réalité virtuelle, on évoquera un accessoire qui s'appelle Feel Real. C'est un accessoire qui retransmet notamment les odeurs, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer cette semaine d'actualité, nous évoquerons le report d'Uncharted 4 ainsi que Titanfall 2 qui apparemment passera multi-support. Sans oublier notre jeu du moment, un jeu auquel Mordrain et moi avons pas mal joué, et ça s'appelle End of Fate. Allez, c'est parti. Et nous allons commencer, mon cher Ben, avec Seven Dragon Saga. Alors, je crois que ça a un rapport avec des anciens d'une boîte assez connue pour les vieux de la vieille. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ouais, c'est même SSI, l'ancienne boîte à l'origine, et là la nouvelle société c'est TSI. Et donc ils ont proposé un Kickstarter d'une licence qui s'appelle d'un jeu qui s'appelle Seven Dragon Saga, qui est un tactical RPG entre guillemets assez classique, avec du combat au tour par tour, possibilité d'avoir 6 personnages, enfin ils disent qu'ils sont un peu de l'inspiration de Donjons et Dragons, donc c'est un peu cet univers là assez fantasy mais un peu exotique, ils disent ça, donc il y aurait des dragons qui seraient mêlés à la population humaine, enfin ça serait un peu nouveau, mais rien non plus de fantastique. Et c'est vrai que là ils ont proposé leur Kickstarter cette semaine, il a commencé. Ils demandent 450 000 $ et ils sont plutôt mal engagés, j'ai l'impression. Mais bon, c'est voilà. Après, je sais que moi, je vous en ai parlé cette semaine. Enfin, notamment toi, Tyran, parce que je sais que t'aimes bien ce genre de jeu. Mais je crois que justement, t'as pas trop été hypé par le truc.
Je voudrais faire un sondage ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a attiré sur ce Kickstarter, quelque chose qui vous a frappé, je sais pas. En tout cas, quelque chose qui pourrait vous donner envie d'investir, quoi.
Pour être très honnête, il y a juste les artworks, mais qui ne se transportent pas vraiment dans l'identité visuelle du jeu. Du coup, ça, voilà, ça m'a paru très très austère en fait comme jeu de prime abord. Du peu qu'on voit en tout cas dans la vidéo de présentation, c'est assez dommage.
ATH.
Bah moi, c'est pas trop mon style de jeu que j'aime, donc j'y vais éviter d'émettre un aspect critique là-dessus, quoi, mais...
Notamment sur l'identité visuelle, enfin, des trucs qui peuvent, tu vois, marquer quand même si ça t'attire pas spécialement, quoi, je veux dire.
Ouais, après, l'identité visuelle, c'est sûr que, ça a l'air très très daté quand même, quoi, ça m'attire pas vraiment, je trouve que la direction artistique que j'ai pu en voir, ça a l'air d'être du vu et du revu, et en plus ça, c'est pas très très beau techniquement, donc, je vois pas trop ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, en fait.
Voilà, c'est exactement ça. Pourquoi moi je suis pas attiré par ça? Alors Ben, je pense que ça t'a attiré un peu, donc on va te laisser la parole vu que c'est toi qui as parlé du truc. Mais moi, en fait, le souci que j'ai avec ce projet, c'est que je vois pas en fait le petit plus. C'est-à-dire que la direction artistique est absolument quelconque. Le gameplay, en gros, ce qu'on t'explique, c'est du tactique RPG classique. Moi, je veux bien, hein, mais voilà. L'univers, c'est de la fantasy archi-classique. Enfin, il y a rien, en fait, qui donne envie, quoi. Et moi, enfin, si c'est pour financer un RPG tactique de plus, je veux dire, il y en a plein qui ont été financés, là, c'est bon. Il y a le RPG dont on parlait il y a quelque temps avec ATH, Taira, qui, pour le coup, avait une vraie identité visuelle, tu vois. Et les mecs, ils demandent beaucoup moins qu'eux, et ils proposent, à mon sens, beaucoup plus en termes, entre guillemets, d'originalité par rapport à l'univers et l'identité visuelle, quoi. Donc, je préfère soutenir des petits nouveaux, à la limite. Bon, en l'occurrence, je les ai pas soutenus à cause du format épisodique, mais c'est un autre problème. À la limite, tu vois, je préférerais soutenir ces petits nouveaux-là plutôt que des anciens qui, parce qu'ils ont fait des jeux il y a 20 ans, se sont dit, bah écoute, on va arriver avec nos gros sabots, on va présenter le CV sur la table et on va dire, ok, donnez-nous de l'argent, quoi.
Ah non, mais je suis bien d'accord avec toi, il y a justement pas grand-chose non plus qui m'a attiré, comme là quand j'ai fait rapidement la présentation, il y a rien, en fait, il y a rien à dire de spécial sur ce jeu. Alors ça allait, voilà, c'est du tactical RPG, tout ce qu'il y a de plus basique, l'univers, c'est un univers de fantasy avec rien d'exceptionnel, on va dire. Et c'est vrai que aujourd'hui, enfin, c'est un peu revenu à la mode ce style de jeu. On en a assez souvent parlé, donc il y a eu pas mal de Kickstarter qui ont été faits, il y a Pillars of Eternity qui va pas tarder à sortir, enfin c'est un peu revenu à la mode, et c'est vrai que du coup on voit naître plein de Kickstarter. À une époque c'était tous les survival, tout ce genre de choses dont notre ami Mordrain est fan. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de tactical RPG, et ben, comme tu dis, celui-là, il propose pas grand-chose de spécial. Et de toute façon, ça se ressent sur leur Kickstarter, parce que bon, leur campagne semble mal engagée, quoi.
Bah, le problème, si tu veux, quand t'es un vieux de la vieille comme ça, et que tu te vends uniquement sur ton CV, c'est que il faut qu'il y ait un public en face qui se rappelle de toi, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour parler de mon cas personnel, c'est des mecs que je ne connais pas. Enfin, c'est une époque. Alors, Eye of the Beholder, ça me dit vaguement quelque chose, tu vois, parce que je suivais quand même l'actualité à l'époque.
Je suis un peu dans le même cas. Ouais. J'ai jamais joué à leur jeu, mais j'ai entendu parler, quoi.
Voilà, c'est une époque où j'étais pas encore trop sur les RPG occidentaux, quoi. Moi, je me suis vraiment mis avec Fallout, Baldur's Gate. Enfin, je suis plus cette génération-là.
Ouais, pareil, de toute façon.
Ouais, ben les mecs, je suis désolé, moi je vous connais pas, donc je vais pas donner. Vous avez sûrement fait des jeux cool il y a 20 ans, mais moi je vous connais pas, donc je vais pas vous donner sur la foi que vous avez fait des bons jeux il y a 20 ans, quoi. Bon, rien à rajouter, messieurs, on passe à la suite.
Ouais.
Oui.
D'ailleurs, à propos de nostalgie, alors là pour le coup, il y a eu un buzz que j'ai pas du tout compris cette semaine. c'est un buzz à propos d'un futur Kickstarter. Alors à la base, ils avaient pas prévu de faire un Kickstarter, mais ils se sont dit finalement, vu les retours, ce serait pas une mauvaise idée.
Non, bah tiens.
Ce sont des gens qui ont travaillé sur la licence Banjo et Kazooie. Pour citer les noms, c'est Steve Mays, Chris Sutherland, Steve Hurst et Gavin Price. Si vous ne les connaissez pas, c'est normal, parce que à part un ou deux qui ont bossé sur le design, les autres ont jamais vraiment occupé des postes très importants chez Rare, quoi. Ou alors sur Donkey Kong, mais bon, ça commence à dater, quoi. Alors on bosse sur un successeur spirituel à Banjo-Kazooie, ça s'appelle Projet Ukulele. Ils ont eu une réponse massivement positive des gens, et voilà, ils ont dit, bah écoute, du coup on va lancer notre Kickstarter. Bonjour. Donc bon, pourquoi pas. Bah, après tout, faut avouer que c'est un peu la dèche au niveau des bons platformers 3D, quoi, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, je vois la hype autour du projet. Je me dis, c'est fou quand même le nombre de gens qui ont oublié la merde que fait Rare depuis 10 ans, quoi. Bon, alors je dis la merde, faut pas exagérer non plus, mais on va dire que c'est médiocre, quoi. Enfin, ils ont rien fait de marquant depuis 10 ans, depuis qu'ils ont été rachetés par Microsoft. Donc bon, pourquoi toute cette hype, je ne me l'explique pas trop. C'est pas le créateur de Banjo et Kazooie, enfin c'est pas le game designer du jeu qui est dessus. Lui, il est toujours chez Rare. Et puis même si c'était lui, de toute façon, encore une fois, voilà, qu'a fait Rare depuis 10 ans, quoi. À part Viva la Pignata qui était sympathique, mais bon...
Ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai un peu de mal à comprendre la hype qui, selon moi, est due simplement au nom, en fait. S'il disait, ouais, on va faire un platformer... Je pense que, enfin, on en aurait juste rien à foutre. mais là, c'est juste le fait d'avoir mis la petite bombe. Bah, on va faire un successeur spirituel à Banjo et Kazooie, qui est quand même une licence qui est très aimée par les joueurs. À mon avis, c'est juste ça. Hein, et ils surfent là-dessus. On verra comment se présente le Kickstarter, mais bon, là pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à être hypé par rapport à ce que tu dis toi en plus, et le fait que eux pour maintenir la hype, ils balancent juste deux petits screenshots, quoi. Enfin, c'est faites un effort, les gars, quoi.
Non, mais c'est tout comme beaucoup de choses qu'on voit en ce moment, bah comme l'a dit Tyran sur le truc d'avant, c'est des gens qui jouent sur la nostalgie. Et donc ils se disent, tiens, on va juste balancer ça et on va voir si ça prend, et on propose rien de spécial. Là on n'y voit rien, comme tu dis, il y a deux screenshots, enfin ça, on sait pas ce que ça va être, et ils se disent bon, on va jouer sur la nostalgie des gens. Banjo-Kazooie, c'est une licence qui a beaucoup plu, comme tu l'as dit, donc entente quoi. C'est dommage.
Moi, j'aurais bien aimé qu'ils montrent, je sais pas, une petite vidéo d'un prototype même, tu vois, mais de montrer.
Bah après, on verra quand ils lanceront leur Kickstarter. Hein.
Ouais, mais là, parce que là, si vu que la hype qu'il y a, s'ils auraient montré, je sais pas, ne serait-ce qu'une esquisse de gameplay, un minimum de trucs, j'aurais pu peut-être comprendre. Mais là, c'est brasser du vent pour moi. Il y a deux screenshots. Et en fait, ils jouent vraiment, bah, comme vous l'avez dit, hein, sur la nostalgie, etc. Je vais pas revenir dessus. Et le fait que, bah, c'est la famille niveau platformer 3D. Je crois le dernier platformer 3D qui m'est en tête, c'est Mario Galaxy 2, tu vois.
Pour faire un parallèle avec un jeu dont on avait déjà parlé, et je crois qu'il t'avait marqué, ATH, par exemple, tu prends At In Time. Tu sais, le jeu qui s'inspirait de Mario 64 avec le petit garçon, ouais, là, avec un chapeau et tout, là. Là, il y avait, ça faisait envie. Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait du concret.
Bah, il y avait une vidéo de gameplay, au moins, on voyait quelque chose, on voyait bouger le jeu.
Il y avait un prototype et tout, c'était super bien branlé. Là, il y a rien, quoi.
Bah, c'est ça le problème. Le problème, c'est que, voilà, c'est, en plus de ça, t'as dit, bon, voilà, l'équipe qu'il y a dessus, rare, c'est plus le même rare que la Nintendo 64, hein. Ils ont fait quand même des jeux mythiques à l'époque, les GoldenEye, les Banjo, les Donkey Kong, etc. On va pas revenir dessus. Mais là, c'est vraiment, voilà, on veut faire un autre Kickstarter, donc donnez-nous l'argent. Les gens, ils ont dit, bah c'est les mecs qui ont fait Banjo-Kazooie, donc ça va être super. Allez, hop, on finance.
Ça aurait pu être le stagiaire.
Voilà.
bon, après, ça a toujours existé sur Kickstarter, hein, entendons-nous bien.
Oui.
Moi-même, j'ai financé des projets sur le seul CV des mecs, hein, notamment Pillars of Eternity. Le truc, c'est que, encore une fois, quand tu te présentes avec un CV, il faut derrière que ton CV soit irréprochable, quoi. Et pour moi, ça fait 10 ans que les mecs n'ont pas fait grand-chose d'intéressant. Et quand bien même c'est le cas, on est à une période sur Kickstarter où les gens sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis de ce genre de projet. Pourquoi ? Parce que Tim Schafer, parce que Peter Molyneux, voilà. On va dire que la grande époque de Kickstarter où n'importe quel vieux briscard pouvait se présenter et récolter 500 000 dollars sans rien en faire, c'est plus le cas, quoi, maintenant. Il faut se bouger un minimum, on va dire, en tout cas. Il faut avoir un bon CV.
Et surtout, moi, je voudrais rajouter que, quand même, le rare qu'on connaît de ces derniers temps, c'est quand même les mecs qui ont fait des jeux sur Kinect, hein.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais. Parce qu'en plus, sur ceux que je vous ai cités, là, effectivement, ils ont fait des jeux Kinect. Hein.
Ah oui, oui.
C'est Kinect Sport, je crois, ou un truc comme ça.
Oui, enfin, un truc comme une connerie comme ça. Je sais même, j'ai même pas envie de savoir, en fait.
Enfin, bref. Financez si vous voulez. Hein, y a pas de souci. Peut-être que au final, le jeu il sera bon. J'en sais rien. Mais personnellement, je garderai mes billes. Hein.
Mais attendez au moins de voir une vidéo, quoi, ou un truc.
Voilà, c'est ça. De toute façon, on peut pas se prononcer alors qu'on n'a pas vu le jeu, donc. On verra quand ils lanceront leur Kickstarter.
Si tu veux, mon intuition me dit qu'on verra pas grand-chose non plus du jeu.
C'est probable, parce que en fait, ils donnent l'impression de faire un Kickstarter dans la précipitation parce qu'ils voient qu'il y a du buzz autour de leur jeu.
Ça peut passer.
Et du coup, c'est pas dans ces conditions-là qu'on peut lancer un vrai Kickstarter qui soit intéressant dès le départ, à mon avis.
Mais en plus, non seulement un Kickstarter qui est intéressant dès le départ, mais aussi un Kickstarter qui maintient la hype.
Ouais.
Parce que pour que ça marche, un Kickstarter, faut aussi que tout le long de la campagne, tu sois actif, que tu parles de ton jeu, que tu donnes envie, etc. Certes, le gros du travail se fait les premiers jours et les derniers jours, c'est vrai, mais entre-temps, si les gens se rendent compte qu'il n'y a pas d'update sur ton jeu, que le projet est vide, etc., laisse tomber, quoi. Alors peut-être que ça fera partie de ces projets où il y a tellement de hype que ça marchera tout seul, tu vois. Pourquoi pas, mais bon, moi en tout cas, ça me fait pas envie. Voilà. On en a terminé avec les Kickstarter cette semaine. Nous allons passer à un jeu dans l'espace. J'ai envie de dire que c'est un peu notre Gravity à nous.
Ouais.
Ça s'appelle Adrift. Alors messieurs, qu'en avez-vous pensé ? Je vais commencer avec toi, Morlaine.
Alors, Adrift, en fait, concrètement, c'est vous prenez le film Gravity. Voilà, vous le mettez dans un jeu vidéo. En gros, vous incarnez un astronaute qui est sur une station orbitale où il se passe des... Bon, on va dire qu'il y a un petit problème dans cette station et il se retrouve un petit peu tout seul dans une station orbitale, on va dire en ruine.
En mode survie, quoi, c'est un peu
en mode survie, en fait. Donc c'est un jeu qui est en vue subjective dans lequel vous allez jouer donc un personnage seul qui est... guidé par une intelligence artificielle. Donc il va essayer donc évidemment de survivre et essayer de de rentrer chez lui, j'imagine. Donc voilà, c'est à peu près ça ce qu'on sait de Adrift pour l'instant. C'est un jeu qui avait été présenté donc au VGX avec un trailer hyper percutant. Et donc aujourd'hui, on a cette séquence qui était un petit peu coupée, enfin qui était super montée dans au VGX. On a cette séquence de gameplay total. Donc il fait à peu près 9 minutes. Et pour moi, en fait, c'est voilà, il y a quelque chose qui, enfin, je trouve que c'est intéressant d'un point de vue conceptuel. Après, je pense que d'un point de vue gameplay, c'est peut-être pas forcément la folie dans le sens où.
Je suis seul à trouver que ça avait l'air chiant.
Non.
Dans le sens, c'est ce que j'essaie de dire en essayant de peser un petit peu mes mots. Mais en gros, l'idée, c'est que je trouve que tu n'es que dans un couloir. Alors c'est normal puisque t'es dans une station orbitale, donc voilà. Mais je trouve que c'est chiant dans le sens où le côté gravité zéro rend le jeu un peu mou, ce qui est normal. Mais
je suis pas d'accord avec toi parce que moi j'ai fait un FPS spatial qui avait été sorti par 3D Mark. C'est Shattered, je sais plus quoi. Enfin, franchement, en termes de gameplay zéro gravité, il y a moyen de faire des trucs, hein.
Ouais.
C'est juste que là, le jeu, il se traîne le cul, putain, mais laisse tomber, quoi.
Et c'est surtout qu'en plus, la séquence, tu te rends compte que c'est une séquence très contemplative où, où on te parle beaucoup, où le personnage se parle à lui-même, où l'intelligence artificielle lui parle. Et au final, ça rend le truc encore plus mou. Alors j'espère qu'il y aura des séquences un petit peu d'action, parce que pour l'instant, en fait, le seul truc qu'ils ont trouvé pour dynamiser un petit peu cette séquence de gameplay, c'est que de temps en temps, le personnage perd son oxygène, donc a du mal à respirer, etc. Donc il faut qu'il trouve des capsules d'oxygène dans le niveau. Et le truc, c'est que c'est même pas compliqué de les trouver.
C'est sur chemin, quoi.
C'est capsules. Donc en fait, concrètement, t'es dans un couloir, tu ne fais que caler tout droit, et honnêtement, ça m'a un petit peu refroidi. Alors, je suis persuadé qu'il y aura des séquences un petit peu plus intéressantes, mais là, pour le coup,
c'est super linéaire pour l'instant. Ouais.
C'est super linéaire, et à mon avis, c'était pas forcément très judicieux de balancer une séquence comme ça pour continuer un petit peu à bâtir la hype de ce jeu.
Pour faire un parallèle qui parlera à TH, moi, je trouve que c'est The Order sur les séquences de flingues.
Pour le moment. Il y a quand même pas les QT, donc ça va. Mais moi, je suis d'accord avec Mandren. C'est-à-dire que ça a l'air d'être plutôt une expérience, en fait, plutôt qu'un jeu, on va dire. J'espère que ça sera pas un jeu qui va durer trop longtemps, si c'est comme ça tout du long. Genre 3-4 heures, ça serait bien. Et surtout, en fait, que j'ai l'impression que c'est un truc, voilà, il faut le vivre vraiment comme si tu irais voir un film ou bien un bouquin. Et ça serait vraiment genre une expérience à vivre avec un Oculus, par exemple, tu vois.
Exactement. Ouais. Un truc un peu à la Stanley Parable, quoi.
Ouais. Voilà.
Dans un autre style, mais.
Voilà, genre vraiment une expérience narrative ou bien même conceptuelle, je sais pas, quelque chose qui sorte un peu du lot. Mais moi, tu vois là, ça manque vraiment de fun, etc. Donc c'est pas un jeu où tu vas t'acharner des dizaines d'heures dessus pour scorer ou pour faire ce que tu veux. T'es dans un environnement. Et puis tu avances tout droit, tu te laisses border par l'histoire. Et donc voilà, c'est un truc je pense qu'il faut pas que ça dure trop longtemps, donc à petit prix pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est mou et ça a pas l'air très très fun à jouer, quoi.
Ben ?
Non, mais ouais, moi quand j'ai vu le truc, on dirait qu'en fait c'est une vidéo de présentation, par exemple pour l'Oculus Rift ou un casque de réalité.
J'allais dire exactement.
T'as l'impression qu'en fait c'est voilà, ils te balancent la vidéo et en gros ils te disent voilà ce qu'on peut faire avec l'Oculus Rift et ça serait le truc à tester. Mais pour moi, enfin ça ressemble pas à un jeu vidéo aujourd'hui.
T'avances tout droit dans un couloir, tu ne fais rien à part choper des capsules qui sont même pas cachées. Enfin. Remarque que si elles étaient cachées, à mon avis, ce serait encore plus chiant, mais je pense que quand même, dans un jeu dans l'espace, avec de la gravité, avec des choses à faire au niveau du moteur physique, non, parce que je sais pas si vous vous rappelez quand même le film Gravity, t'as toutes les phases, tu sais, où t'as, on t'explique qu'un petit objet, tu sais, comme ça, qui se déplace à je sais pas combien de kilomètres heure, ça peut te tuer d'un coup, je pense qu'il y a moyen de faire des séquences un peu speed dans l'espace, où justement tu dois gérer la gravité et tout, où tu dois éviter les objets, etc., qui peuvent être passionnantes d'un point de vue de gameplay.
Voilà
quoi.
Les QTE.
justement, sans QTE. Et moi, je pense qu'il y a même moyen de faire du gameplay émergent, tu vois, avec ce genre de truc, en cassant la station spatiale. Mais là, en fait, ils sont partis dans un film totalement contemplatif.
Ouais.
Alors moi je veux bien, mais à quel prix déjà? Et quid de l'intérêt sur long terme, quoi? Parce que si c'est ça, derrière il va falloir vraiment que l'histoire soit en béton armé, parce que sinon si c'est pour faire une fois le truc et une fois que t'as fini, ben voilà, zéro intérêt. Bon, super quoi. Parce que au moins cette année Parabole, tu vois, c'était une expérience interactive. Tu pouvais recommencer plusieurs fois. Il y avait un réel intérêt.
Ouais, parce qu'en même temps cette année Parabole, il casse le quatrième mur et il jouait aussi avec les codes du jeu vidéo.
Bah, il se casse le quatrième mur, mais surtout il se fout de la gueule des joueurs. Parce que c'est une expérience qui vise à montrer les mécaniques qui sous-tendent pas mal de jeux en fait et qui les tournent complètement en dérision.
C'est ça.
Et c'est un truc qui parle totalement aux joueurs, quoi. Là, c'est juste un truc beau contemplatif que tu vas faire avec ton Oculus Rift, pour le moment. Mmh. C'est tout. Bah,
par exemple, dans Star Wars Parable, tu vois, par exemple, des fois, tu crois que t'as un droit à un bug d'affichage, etc. Mais en fait, là, le jeu avait prévu ça, parce que le narrateur te prévient que tu croyais que c'était un bug, mon coco. Mais non, en fait, on avait prévu ça. On a une phase de dialogue. Le narrateur va intervenir à ce moment-là pour te dire, non, t'inquiète pas, c'est pas un glitch, etc. Ça a été prévu par le jeu. Et, pour revenir à ce que tu disais par rapport à The Order, tu disais que c'était chiant, etc. Et moi, j'ai l'impression que là, c'est un truc encore plus chiant que The Order. Pourquoi? Parce que c'est, par exemple, dans BioShock, t'avais les trucs qui s'appelaient les audiologues. Et tout le monde a trouvé ça super intéressant, ils en ont mis dans tous les jeux. Et ben là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est une succession de, tu t'avances ouais. Le droit et tu écoutes des audiologues. Et voilà, c'est pas super intéressant. Par exemple, si Gravity, pourquoi ça a fonctionné? Parce que c'était un film. Mais si ça serait, il y aurait eu Gravity, The Movie, The Video Game, je pense que personne n'aurait voulu jouer à ça, quoi. Et surtout, il y a le truc que je pense qui passionne le plus de joueurs dans un jeu vidéo, c'est collecter des objets à droite à gauche. Voilà, c'est pas super intéressant. Quand on nous met ça en général dans un jeu, va chercher une clé à droite, à gauche. On est plutôt là à râler que dire ouais. Ouais, c'est cool quoi.
Bah, surtout quand en plus le perso se traîne à une vitesse. Et les mecs sérieux, je sais pas hein, mais quand t'es en gravité zéro, quand tu te propulses, normalement ça accélère, hein. Ça va pas à deux à l'heure en permanence quoi. Enfin bref, nous allons maintenant évoquer Steam Morren.
Ouais.
Que se passe-t-il au pays de Valve cette semaine?
Alors au pays de Valve, on se rend compte qu'il n'y a pas qu'un seul pays en fait. A priori, Valve aurait implémenté un système qui verrouille un petit peu les frontières de certaines clés. Certaines clés notamment qui viennent des pays de l'Europe de l'Est et notamment de la Russie. Mettons que tu es russe, tu achètes un jeu, tu l'offres en cadeau à quelqu'un qui en échange te donne... c'est quoi typiquement?
Bah, des clés qui permettent d'ouvrir des coffres sur Team Fortress, voilà. Pour des chapeaux, des conneries comme ça, ou même sur n'importe quel free-to-play, genre Dota 2, ce genre de truc, quoi.
D'accord. Donc ça, a priori, c'est un système que Valve veut un petit peu faire mourir.
Oui, parce que, comment vous dire, un jeu qui va coûter 20 euros, tu vas le payer 10, en gros.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'a priori, maintenant, et ça a déjà été implémenté selon certaines sources qui viennent de Reddit. C'est certaines clés, en fait, les clés qui viennent de pays comme la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, etc., etc., seront verrouillées aux frontières de ce pays. Donc, ce qui fait que si vous achetez, si vous êtes russe et que vous achetez un jeu, je sais pas moi, Ori and the Blind Forest, que vous le donnez à quelqu'un qui habite en France, par exemple, ben cette personne-là ne pourra pas y jouer parce que c'est une clé qui est limitée au territoire russe.
Donc, vous avez compris, si vous avez des amis à l'étranger, Valve n'accepte pas que vous donniez des jeux à vos amis.
Voilà. Donc a priori, je pense que c'est punitif surtout pour ce système que tu viens d'évoquer, Tyran. Après, à mon avis, il y a aussi les sites de clés qui sont impactés, ceux qui, bon, vous savez, il y a un certain nombre de sites qui vous permettent d'acheter des jeux moins chers parce que ce sont des clés qui viennent de Russie, qui viennent de je ne sais où.
Alors la question, le gros point d'interrogation, c'est qu'il me semble que ces sites-là achètent les jeux en boîte, en fait. Mm-hmm. Et récupère les clés dans les boîtes. Et je sais pas si ça marche dans ce cas-là aussi. Donc ça, c'est le gros point d'interrogation. On va pas s'avancer là-dessus parce que il y a un doute, quoi.
Donc on verra. Alors a priori, il y a déjà des gens qui ont trouvé la parade, c'est-à-dire qu'ils utilisent un VPN sur leur ordinateur, ce qui leur permet du coup d'activer la clé.
Mais
mais à savoir que Steam voilà, vous avertit très spécifiquement que c'est une violation de l'accord d'utilisateur de Steam. Donc voilà,
il pourrait y avoir... Et qu'ils peuvent fermer votre compte.
Voilà.
Et il pourrait... genre, t'as 150 jeux, tu les perds, hein. C'est fini. Voilà.
Donc, punition.
Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors, d'un côté, je peux comprendre la démarche, etc. Mais de l'autre, ça sert à quoi de mettre une fonction cadeau si tu peux pas offrir des cadeaux à des potes qui sont à l'étranger? Retirer là, ce moment, voilà. Je veux dire, il faut être cohérent, quoi. Faut arrêter d'être faux cul, quoi, à un moment donné. Moi, je sais pas, tous mes potes ne sont pas français, hein.
Bien sûr.
Enfin, moi, je trouve que déjà, ce système-là, à la base, je veux dire, c'est pour les mecs qui ont vraiment envie de se faire chier. Parce que, si tu veux, faut aller acheter les clés, etc. Faut que tu trouves quelqu'un de confiance pour faire l'échange. Il y a tout un processus, et si tu veux, pour remplir son porte-monnaie, faut utiliser un truc en JavaScript pour le remplir exactement le montant que tu veux, etc. C'est un peu chiant, tu vois, c'est parallèle. N'importe quel utilisateur lambda de Steam n'a pas forcément envie de se lancer là-dedans. Bon, voilà. Bon, après, je précise que moi, ça m'arrivait d'acheter des jeux par ce pays-là, donc je suis peut-être biaisé aussi, hein, j'en sais rien. Mais, dans tous les cas, je trouve que pour les gens qui sont réglo, c'est un peu con, quoi.
Alors, a priori, tous les pays ne sont pas touchés.
Bah, les pays d'Est, faut pas avoir voilà. Des amis russes.
Exactement. Faut pas avoir des amis dans les pays de l'Est. Faut pas avoir des amis ukrainiens. Faut pas avoir des amis moldaves, etc., etc. À savoir qu'a priori, le Mexique aussi est touché.
Bah en fait, c'est toutes les zones où les jeux sont vraiment moins chers. Quoi.
Voilà. Tout donc l'Amérique du Sud aussi est touchée. Donc bon, c'est voilà. On verra les implications plus tard. Enfin, sur le long terme de cette décision. Si ça se trouve, il y a un certain nombre de sites de clés qui vont fermer. Mais bon.
Bah moi, ce qui me fait le plus peur là-dedans, en fait, c'est le monopole qu'a pris Steam, parce que tu vois, ils peuvent décider du jour au lendemain de fermer ton compte si tu fais une connerie, ouais. La moindre erreur, et donc tout ton catalogue de jeux, tu peux le perdre comme ça, selon leur bon vouloir, en fait. Alors que toi, tu voulais juste profiter d'un jeu un petit peu moins cher, parce que voilà, c'était le système t'a permis de profiter d'avoir une occasion. Après, d'accord, pour eux, ils perdent de l'argent, etc. Je suis ok, mais bon, c'est comme a dit Tyran, pourquoi dans ce cas-là permettre d'offrir des jeux si tu peux pas avoir des amis, on va dire pauvres, quoi. C'est entre guillemets parce que c'est un peu du, voilà, c'est un peu du genre, tu dois avoir des amis de ton pays ou bien de ta région parce que si t'as des amis, voilà, qui sont du tiers monde, etc. ou je sais pas quoi, et bah t'as pas le droit d'être ami avec eux, en gros, ou bien tu peux être ami avec eux, mais tu peux pas échanger ni rien. Donc moi, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un vrai concurrent à Steam qui arrive, pour au moins qu'il n'ait pas le monopole total du marché et qu'il y ait une autre alternative, parce que là s'il commence à mettre ça, je sais pas où est-ce que ils pourront aller à l'avenir, quoi, en fait.
Non, mais surtout que je voudrais préciser une chose quand même, c'est que ils sont eux-mêmes responsables de ça. C'est-à-dire que tout le marché parallèle qui a été mis en place là, les clés Team Fortress, etc. Si ça a été rendu possible, c'est bien parce que ils ont mis en place un modèle économique où ils se font masse de thunes avec des objets dématérialisés.
Bien sûr.
Quand même, c'est un peu eux aussi qui poussent au crime, quoi, quelque part. Alors bon, moi je veux bien, hein, mais voilà, ça me paraît très curieux. Bon, nous allons maintenant passer à Feel Real. Ben, peux-tu nous parler de ce nouveau masque pour Hannibal Lecter, s'il te plaît?
Oui. En ce moment, donc, c'est la mode de tous les casques de réalité virtuelle, etc. Et maintenant, ça va être la mode des accessoires pour ces casques. Et donc là, il y a une start-up qui s'appelle Feel Real, qui vient donc de mettre au point, en fait, un accessoire qui va se fixer à votre casque. Donc, ils annoncent une compatibilité avec les plus connus, le projet Morpheus, l'Oculus, etc. Et en fait, qui va vous permettre d'avoir des odeurs et des sensations en plus de la réalité virtuelle, donc en plus de votre casque. Donc c'est un accessoire, en fait, qui va se fixer dessous. C'est pour ça donc que tu dis que ça fait Hannibal Lecter, parce que du coup la partie réalité virtuelle, le casque te prend tout le haut du visage, et ça, en fait, ça va te prendre tout le bas du visage, parce que ça va se fixer, en fait, tu vas avoir une partie sur la bouche et ça va te prendre toute la mâchoire, en gros.
Ça fait vraiment une tête de psychopathe.
Ah bah en fait, ça fait, ouais, t'as un casque intégral sur toi, quoi. Et après, bon, par ce casque, il va proposer, ouais, donc des odeurs. des sensations de chaud, de froid, et même de des petites gouttes d'eau qui pourront sortir du casque. Alors moi, quelque part, ça m'étonne pas qu'on en arrive là, parce que à partir du moment où tu commences avec les casques de réalité virtuelle, pourquoi pas créer des accessoires qui te font aussi ressentir si t'es dans la neige, d'avoir une petite sensation de froid, si tu tombes dans l'eau, une ou deux gouttes. Quelque part, ça m'étonne pas. Après, voilà, c'est ça fait, en plus là l'objet coûte $250. On a parlé, enfin vous avez parlé la semaine dernière ou celle d'avant, je sais plus quand, du casque de que Steam va proposer là, de HTC, qui va coûter le prix d'une console, donc en gros $400. En gros, c'est un accessoire, si tu veux le tout, ça te fait $700 pour pouvoir jouer en réalité virtuelle totale. Ça commence à faire un peu too much aussi.
Et encore, tu comptes pas, vous savez le truc là, l'espèce de machin où tu peux marcher en fait en mode incurvé, et ça détecte tes mouvements, tu rajoutes le prix de ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que commercialement, ça a aucun avenir. Enfin, je vois pas comment ça peut marcher, ce genre de truc. En plus, les joueurs passent pour des sociopathes. Alors là, putain, ouais. Si tu mets ça, c'est mort, quoi. Mais au-delà de ça, pourquoi je voulais parler de ça cette semaine? Parce que je me demandais, est-ce que vous trouvez que, au fond, est-ce que ça a vraiment un intérêt, quoi? Parce que autant les sensations de froid, etc., je veux bien. Mais par contre, je me dis, les odeurs, est-ce que c'est pas aller un peu trop loin? Est-ce qu'il y a vraiment, j'ai vraiment envie de sentir les odeurs dans tous les jeux, notamment, je pense à tous les FPS où tu vas défourcer la gueule des mecs, tu vas avoir des membres arrachés, etc., où ça va sentir la chair cramée. Est-ce que c'est vraiment très pertinent, quoi?
Ouais. Non, déjà de base, j'y crois pas une seule seconde à cette histoire d'odeur fidèle, etc. Parce que déjà, comment tu fais pour les générer?
Ben, c'est ça. En gros, tu vas mettre une espèce de liquide dans ton casque, comme ça peut être c'est fait ça. Sur les cigarettes électroniques, pour une espèce de petite fiole que tu vas devoir mettre dans ton casque et qui va essayer de rappeler l'odeur, quoi. Enfin, j'imagine que ça va fonctionner comme ça. Là, ils en parlent pas plus, mais bon, ça va être dans ce style, une cartouche que tu glisses dans ton truc et qui te rappelle l'odeur. Ben oui.
Ça ne peut fonctionner que comme ça, de toute façon. Donc ça veut dire qu'en plus de tes 250 €, il va falloir que tu rachètes des cartouches.
Ouais.
Donc très bien, mais voilà, moi personnellement ça m'intéresse pas du tout. Alors le coût des gouttelettes d'eau aussi.
Non, mais au-delà de la faisabilité de la chose, est-ce que le concept en lui-même est intéressant ou pas?
Franchement,
j'en doute, ouais.
Bah, d'un point de vue de très personnel, j'ai pas envie de jouer à un jeu qui m'envoie de l'eau à la gueule ou qui me fait sentir des odeurs. Enfin, je sais pas. Je pense que le médium jeu vidéo est déjà assez immersif comme ça pour te permettre d'aller de t'échapper ailleurs. Enfin, je sais pas. Ton imaginaire te le figure de lui-même, en fait. C'est tous ces à côté. Moi personnellement, j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'il fasse froid dans la pièce pour me figurer le froid dans The Long Dark, par exemple. Donc c'est pas un besoin que j'ai, en tout cas. J'ai pas besoin d'être encore plus immergé dans mon jeu avec ce genre de sensation là, quoi.
Non, mais moi j'ai hâte qu'ils nous sortent les casques avec tu sais les goûts différents. Alors aujourd'hui, ce casque là a 4 goûts: goût barbecue, goût mort, goût napalm. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi, quoi. Il faut qu'ils arrêtent un petit peu. Déjà t'as l'air d'un gros con avec ça sur la tête, hein. Tu vois rien, on dirait, je sais pas, tu fais penser au mec de vendredi 13 là, tu sais, celui qui a un casque de hockey. En plus de ça, ça vient donc s'accrocher à un casque que tu portes déjà sur la tête. Des sensations de chaleur ou de froid, bah vu que le casque est sur ton visage, ça va t'arriver dans la gueule, ça va pas t'arriver sur le corps. Donc si t'es censé être dans la neige, c'est plutôt tout ton corps qui est censé avoir froid, pas que ton visage. En plus de ça, t'as le casque, tu rajoutes ça plus les écouteurs, bah là t'es vraiment un gros autiste, hein, excuse-moi, mais bon. Enfin, tu vois, là les mecs ils vont un petit peu trop loin. Ok, le casque de réalité virtuelle, ça peut être une expérience qui prolonge l'expérience de gameplay, etc., d'être beaucoup plus immersif. Là, avec ça en plus, bah j'ai l'impression que ça va vraiment être accessoire. Moi, je voudrais l'essayer juste pour voir. Ah ouais, c'est marrant, j'ai senti l'odeur du mec que je viens de fumer. Mais bon, comment je sais que c'est déjà c'est l'odeur d'un vrai mec qu'on a tué? Ça veut dire quoi, qu'ils ont tué des mecs en vrai pour savoir quelle odeur ça va avoir? Et en plus ça, bah même si ça sort, bah je vais essayer, peut-être l'essayer une fois ou deux. Je vais dire ouais, c'est marrant, mais est-ce que j'aurais vraiment envie de jouer avec ça? Bah non, pas du tout, parce que là ça va trop loin. Et en plus ça, j'aurais l'air vraiment d'un gros con avec ça sur la tête, quoi.
Ceci dit, avec les casques de réalité virtuelle, t'as déjà
remarqué. Oui. Ouais, bah, là, ça sera encore d'un plus gros con, si tu préfères. Bah, moi, c'est le DLC du casque, quoi.
À la limite, personnellement, avoir l'air d'un con, je m'en fous complètement, mais par contre, c'est juste que je vois pas l'intérêt, en fait. Je préfère, effectivement, je suis un peu comme Ronald sur ce plan-là, c'est-à-dire que je pense que la force d'un jeu aussi, c'est arriver à suggérer un certain nombre de choses, quoi. C'est inutilement, à mon avis, se compliquer la vie. Que de rajouter des sensations qui n'ont pas lieu d'être, quoi, en fait, enfin qui n'apportent pas grand-chose en plus, à mon avis, à l'expérience, quoi, au final. Puis, parce que surtout que, je veux dire, si c'est avec des cartouches, etc., ça veut dire que tu auras juste certaines odeurs que tu sortiras tout le long du jeu. Enfin, je suis pas du tout convaincu de l'intérêt du truc, quoi.
Puis il y a aussi le fait que il faut que ça soit prévu in-game, le support de cet accessoire-là.
Déjà, l'Oculus Rift, on a des doutes sur comment ils vont intégrer ça, alors les odeurs.
C'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on se pose même la question, en fait, de l'intérêt de ces casques de réalité virtuelle pour l'ensemble des jeux. Alors, ils vont faire des jeux pour lesquels ça va être très bien adapté, donc des jeux style des simulations spatiales, ce genre de choses, du Elite Dangerous, Star Citizen, pourquoi pas. Ça pourrait être des choses très adaptées. Pour le casque de réalité virtuelle. Alors après, est-ce qu'ils vont arriver à sortir un nouveau style de jeu ou de gameplay adapté aussi pour ce truc à odeur? Ça va être encore un peu plus compliqué. Déjà qu'ils savent pas trop quoi faire avec les casques de réalité virtuelle. Si en plus il faut retrouver un truc qui fait la réalité virtuelle et l'odeur et les sensations de chaud-froid, ça va être compliqué de faire un jeu qui regroupe tout ça et qui est intéressant.
Non mais vous vous rendez compte que aussi là c'est le premier DLC qu'on a pour un casque, quoi, sauf que tu télécharges pas. En gros ça va les DLC après les microtransactions, ça va être quoi? On va chez ton bureau de tabac, achète le prochain goût.
Oui, un DLC en général ça induit l'idée quand même que c'est plus ou moins obligatoire. Là c'est tellement accessoire, je veux dire que.
Ouais mais bon là tu vois là le genre si tu vas jouer à un jeu de foot, je sais pas, achète le goût pelouse de gazon, tu vois. Enfin c'est quand même un peu aberrant, je trouve, quoi.
Personnellement, l'Oculus Rift, je vois tout de suite l'intérêt. Hein. Par contre, là où je suis beaucoup plus dubitatif, c'est sur la viabilité commerciale de la chose.
Ah bah à ce prix-là, il y en a
pourquoi
aucune.
Pourquoi se faire chier à développer des trucs spécifiquement pour l'Oculus Rift, alors que c'est pas pensé dès le départ pour être intégré à toutes les plateformes, et que l'on sait bien de toute façon que aujourd'hui, les studios de développement veulent sortir leurs jeux sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Enfin bref. Tout ça pour dire que le concept, on n'est pas convaincu et que voilà. Next. On va terminer cette semaine d'actualité avec deux annonces. La première qui va peiner, n'est-ce pas, les fans d'Uncharted, c'est le report du jeu pour 2016. Alors messieurs, vous êtes tristes?
Je suis pas tant triste que... Enfin pas, en fait, je suis juste même pas étonné en fait. D'un point de vue d'acheteur de la PS4, si j'en avais une, les bras m'en tomberaient. Je serais ah ouais d'accord.
Oui, donc rappelons-le, il était attendu pour les fêtes, hein, quand même.
Il était attendu pour fin 2015, donc probablement novembre juste avant Noël. Donc ça veut dire que grosso modo, il y a une seule exclue triple A sur la PS4 cette année, c'est The Order, et on sait tous ce que ça a donné.
Hop 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 hop. Comment ça que The Order, tu as oublié Bloodborne ou quoi? T'es malade ou quoi? Non, hop, moi l'exclu que j'attendais, c'était pas The Order.
Bon bah tant mieux. Donc voilà, enfin, on sait tous que les joueurs, on va dire mainstream PS4, ils attendaient Uncharted 4 et pas grand-chose d'autre en termes d'exclus. Du coup, on reporte ça à 2016 et c'est le deuxième trimestre 2016, hein, donc entre mars et juin 2016.
Bon. Ah oui, en plus c'est pas genre petit report, quoi. C'est
non, c'est gros
le
report.
Truc, putain, c'est la merde. Faut vraiment qu'on reporte beaucoup pour finir les jeux, quoi.
Mais c'est même pas surprenant parce que en fait le truc c'est que ce jeu on l'a tellement peu vu depuis depuis son annonce en fait.
Où il y avait des soucis techniques, rappelons-le.
À l'E3, on avait vu pas grand-chose, une cinématique.
Un teaser, ouais.
Un teaser, enfin le jeu, on ne le voit jamais.
Si, on avait une longue séquence de gameplay, vous rigolez.
Non, mais oui,
c'était au VGX.
C'était au VGX, mais pas à l'E3. Oui, parce qu'il
oui non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une longue séquence de gameplay, parce que les gens après vont nous tomber dessus et dire, mais vous déconnez, évidemment qu'on a eu du gameplay, on a même eu une longue séquence de gameplay. Par contre, moi je me rappelle de la séquence du gameplay, déjà il y avait eu un énorme bug pendant la présentation, ils l'ont retiré d'ailleurs de la vidéo sur YouTube, et ensuite, techniquement, il y avait des soucis, quoi, c'était pas stable.
Ouais, mais au moins, c'était le jeu, c'était un vrai jeu, c'était un mec qui jouait réellement, quoi, parce que sinon, cette séquence-là, il l'aurait pas laissé, il l'aurait pas montré en VGX. Au moins, on a vu le vrai jeu tourner, quoi, entre guillemets, en développement, donc c'était un mec qui jouait en live, et c'est vrai qu'il y a eu des soucis techniques, parce que le mec, au bout d'un moment, il passe à travers une texture, il y a eu aussi deux, trois trucs qui étaient pas très bien affichés correctement, enfin, c'était un jeu en développement. Après, tu vois, moi, Uncharted 4, qui soit repoussé à 2016, ça me dérange pas vraiment parce que je savais même pas qu'il sortait en 2015, honnêtement. comment dire, Uncharted, moi, c'est une série que j'apprécie, mais que je la prends comme une série popcorn, tu vois. C'est, je vais faire mon petit Uncharted, et puis tu vois, c'est cool, mais c'est pas le genre, si le jeu il sort pas, je vais pas dire, ah putain, tu vois, je vais pas être là à attendre tous les jours de scruter la moindre information. C'est des jeux sympathiques, qui se prend vraiment comme un gros blockbuster, tu vois, c'est un truc, tu vas jouer, tu vas rigoler. C'est comme si tu vas voir ton Indiana Jones au cinéma. Après, une fois que tu l'as terminé, ça te laisse certes pas un mauvais souvenir, plutôt agréable en général. Mais voilà, ça s'arrête là, c'est pas non plus, là, c'est vraiment le jeu qui fait vendre les PS4, c'est pour ça que ça fait, ça fera vraiment mal à Sony, parce que
c'est ça,
leur grosse exclusivité. Mais en tant que joueur, c'est pas non plus, le jeu ultime, quoi, non plus.
Ouais. Disons que c'est vrai que les joueurs, ils attendent plutôt Bloodborne, a priori, mais que, la grosse locomotive, faut pas se leurrer, c'était Uncharted.
Bah oui, rien qu'en termes de vente, tu vois, par exemple, un Bloodborne, tu vois, c'est des jeux qui se vendent quand même, mais ça reste quand même assez de niche, alors que Uncharted, tu vois, c'est ils font généralement entre 6 et 8 millions de jeux, donc c'est plutôt tu vois, c'est, il y a une grande différence entre les deux quand même. Après, c'est pas des jeux qui vendent des 30 millions comme un GTA, mais quand même, pour Sony, ça reste une exclusivité forte et qui fera acheter la PlayStation 4 à un bon nombre de joueurs, surtout que on connaît Naughty Dog pour les qualités techniques qu'ils ont, parce qu'ils maîtrisent vraiment les moteurs de PlayStation. Ils arrivent à tirer le maximum des capacités des consoles, donc c'est vraiment ça que les gens aussi attendent. Ils attendent de voir ce que Uncharted va proposer, pour voir ce qu'un vrai jeu, entre guillemets, parce que The Order, c'était quand même assez spécial, tu vois, format cinémascope, assez linéaire. Là, ça va être linéaire, mais c'est un peu plus ouvert quand même que The Order, avec plus de gameplay, etc. Et donc là, les gens, ils veulent vraiment attendre l'étalon graphique de la PS4.
Juste, quand on voit les chiffres de la PS4, elle se vend juste ultra bien. Pour une console qui a pas un super catalogue aujourd'hui, c'est juste impressionnant les chiffres de vente qu'elle peut avoir.
Ouais, c'est 20 millions, ils ont annoncé il y a pas longtemps.
C'est, alors que on a discuté déjà beaucoup ici, ça fait 2 ans peut-être qu'elle est sortie quasiment, et le catalogue est encore pauvre.
Bah en fait, le truc, c'est que non, le catalogue, il est riche, mais il est riche en éditeurs tiers.
Oui,
il
voilà,
est pas
oui.
Riche en, pas nécessairement
riche, c'est pas exactement le terme qui vient à l'esprit, mais on va dire qu'il est correct.
Non, en tout cas, quand je te dis riche, c'est-à-dire qu'il est, t'as de nombreux jeux qui sont sortis, t'as de quoi jouer, si d'aventure tu ne joues pas sur PC. Mais en dehors de ça, enfin, je suis désolé, moi j'ai aucun intérêt à acheter une PS4 à l'heure d'aujourd'hui. En dehors de Bloodborne, évidemment, mais c'est pas un jeu qui va me faire acheter une console, quoi. Et
deux cases, quand elle sera vraiment pas chère dans 3 ans. Quoi.
Voilà, c'est ça. Mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque 2 ans que la console est sortie, et pour moi, il y a toujours pas de killer app, quoi. C'est assez fou. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de précédent de ce genre-là sur les anciennes consoles,
ouais,
en fait.
Je suis d'accord avec toi, mais je pense que dans les prochaines aussi générations de consoles, les jeux vont être de plus en plus multiplateformes. Parce que les éditeurs savent très bien qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de joueurs PC aussi.
Non, mais c'est déjà le cas depuis la génération.
C'est déjà le cas, mais ça allait un peu moins. Ça allait un peu moins quand même sur la PS3. Enfin, sur la PS3, ça l'était à la fin, mais au début de la PS3, Steam, c'était pas encore ultra connu. Aujourd'hui, même si c'est de la merde, mais t'as les Steambox. Enfin, Steam commence à prendre, aujourd'hui, comme on a déjà discuté, des fois dans les annonces de jeux, tu vois écrit PS4, Xbox et Steam. et pas PC. Donc ça commence dans l'esprit des gens, ça commence à prendre une place de plus en plus importante. Et c'est vrai que je pense qu'on achètera de moins en moins une console pour un gros jeu ou une licence, et on le prendra parce qu'on a plus envie de jouer dans son canapé que devant son PC, ce genre de choses.
Bah, mais après, tu vois, par exemple, pour les consoles, j'ai le choix entre la PlayStation 4 et la Xbox One. La Xbox One aussi, l'autre côté, les exclus, c'est pas foufou.
Et la Wii U, monsieur. Et la Wii U.
Ah mais je parle de console de next gen, quoi. la Wii U, c'est une très bonne console, mais ça joue. C'est pas du tout le même catalogue. C'est pas du tout. Ça a vraiment rien à voir. C'est vraiment une console, voilà, plus familiale, etc.
Bah ouais, bah justement, tu vois, c'est la seule console qui m'intéresse.
Ouais, mais moi, c'est ça le truc. Moi, pourquoi alors aujourd'hui j'ai pris la PS4 par rapport à la Xbox One, c'est parce que déjà il y a beaucoup de jeux japonais qui vont arriver sur console PlayStation, qui ne seront pas sur Xbox One. Quand on connaît les différents avec la console de Microsoft et le Japon, etc. Là, par exemple, il y a eu Persona 5 qui a été annoncé, qui va arriver sur PS3 et PS4. Moi, j'ai jamais fait un Persona, mais par contre, j'ai vraiment envie de le faire, celui-là, sur PlayStation 4. Il a l'air très très joli.
Très joli pour la PlayStation 3, hein, parce que pour la PlayStation 4, techniquement, faut pas déconner. Hein, je mets Bloodborne à côté, c'est autre chose quand même.
Ouais, mais tu vois, je parle vraiment de direction artistique, etc. Ouais. C'est ça qui m'intéresse vraiment dans le jeu. Puis en plus, ça, c'est un RPG. Tu vois, il y a des jeux qui vont arriver sur la console de Sony, qui seront pas sur la Xbox One, qui seront vraiment des jeux pas très très vendeurs, qui seront vraiment réservés à un public de fans de RPG pour
cette
console.
Tu vois, ça, j'en suis pas sûr. Parce que je vois que de plus en plus de Japonais arrivent sur PC. Et je me dis que si on a des Final Fantasy, des Valkyria Chronicles sur PC, et que ça se démocratise d'une manière générale, les mecs vont forcément sortir leur jeu sur Xbox One, en fait. S'ils sortent leur jeu sur PC, bien entendu.
Par exemple, tu vois, le Yakuza 0 qui va sortir bientôt, là, si je vais y jouer, je pourrais y jouer que sur PlayStation 4, et c'est un jeu typiquement japonais. Il sera traduit en anglais, etc. Mais je pourrais pas le faire sur une autre console, malheureusement. Le Dragon Quest Hero que j'ai envie d'essayer, qui a l'air d'être un mousseau sympathique. Et c'était vraiment des jeux, tu vois, qui ça va pas être des jeux de très grand public, mais moi j'ai envie de les faire. Et que voilà, je pourrais pas les trouver ailleurs, malheureusement. Après, le catalogue, par exemple, pour cette année 2015, c'est MGS5, c'est The Witcher 3, c'est Batman qui arrive. Et puis voilà, c'est que des jeux éditeurs tiers. Il n'y a pas vraiment de gros jeux exclusifs à un constructeur qui va tirer le catalogue vers le haut, quoi.
T'achètes la console la plus performante, quoi. C'est le seul argument qui reste quelque part, vu que finalement les jeux exclus on en a très peu et fait voilà.
Ouais, mais bon, enfin bref. Pour moi c'est vraiment l'argument les jeux exclus, c'est vraiment ça qui me font choisir cette console là par rapport à une autre, tu vois. Par
exemple, ouais, mais là pour la plupart des gens.
Pour la plupart des gens ils achètent une console parce qu'ils ont eu celle de la génération d'avant, et ceux qui sont sur PS qui ont acheté leur PS 1 et qui sont restés dessus, ils vont même pas se poser la question, ils vont acheter une PS4 plutôt qu'une Xbox.
Alors là,
une Xbox One.
Non. Je te répondrais que non, parce que Sony avait annoncé que 60% des possesseurs de PlayStation 4 n'avaient pas de PlayStation 3 auparavant. Ouais. Tu vois, c'était des gens qui étaient sur Wii ou bien sur 360. Donc il y a quand même beaucoup de turnover entre les gens. Donc moi je pense pas que vraiment la marque qui fait c'est déjà pour moi à la base l'argument numéro 1 de la PlayStation 4 par rapport à la Xbox One, c'était le prix. Quand la PS4 était à 400 la Xbox One était à 500, en plus elle était moins performante, enfin etc. Et voilà, donc il y a plein de trucs qui font que Sony a pris un peu d'avance, et surtout le gros coup dur de l'E3 quand Microsoft avait fait sa mauvaise conférence, quoi.
Oui, c'est sûr.
Bon, d'ailleurs, ils ont d'autant moins de raisons de se bouger que Titanfall 2 ne sera plus exclusif à Microsoft.
Ouais.
Donc, pour le coup, là, c'est l'exclu qui saute, qui fait un peu mal. Je dis bien un peu parce que, au final, je suis pas sûr que Titanfall ait été un succès tel que ce soit une grosse perte pour Microsoft, mais ça fait quand même un peu chier, quoi. Pour quand t'es possesseur d'Xbox One, j'imagine que voilà, ça.
est-ce que son manque de succès justement est pas lié au fait que la Xbox One n'a pas trouvé son public, quoi?
Oui, sûrement.
Enfin, pas trouvé son. Alors, j'y vais avec les grands mots là, mais non, c'est pas vraiment ça. Mais c'est pas autant vendu que les prévisions.
Le jeu n'a pas marché sur PC non plus. Hein.
Ouais.
Oui, voilà, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu que le jeu, il a été vachement hypé et il a pas eu le succès de sa pub, on va dire, par rapport à toute la pub qu'il en a eu, plus les ventes d'Xbox One. C'est sûr que ça, au final, ça fait réfléchir. Ils disent, tiens, on va le mettre multiplateforme et bon, on aura peut-être un peu plus de ventes comme ça aussi.
Bah, à mon avis, les mecs se sont quand même fait chier à développer un moteur pour ce jeu, parce que je rappelle que c'est une version très modifiée du Source Engine. Hein. Ils veulent juste rentabiliser.
Ouais, bien sûr. Ouais,
bien sûr.
Donc du coup, ils font une suite sur tous les supports et puis basta quoi.
Bah si vous voulez en fait écouter les déclarations de Vince Zampella, qui est donc le CEO de Respawn Entertainment, il avait dit que le choix de l'exclusivité sur la Xbox One en fait du premier jeu, c'était plus un choix de business qu'une réelle évidence pour eux, tu vois.
Bien sûr.
Mais c'était évident pour tout le monde.
Ouais, non, mais là quand tu vois, quand c'est le CEO qui l'annonce, ça laisse plus vraiment de doute quoi. Après Titanfall, il a été annoncé pas de date pour l'instant. Ce qu'ils annoncent par contre, c'est quelque chose qui est assez marrant, c'est que on sait pas s'il y aura un mode solo dans le jeu à proprement parler, parce que le premier, je le rappelle, n'a pas de mode solo, mais apparemment ils veulent mettre un scénario beaucoup plus présent que par le passé. Voilà.
Bah, ça peut être intéressant hein, si c'est bien fait.
Oui,
mais j'ai un commun doute.
Et aussi une petite nouvelle concernant le Titanfall premier du nom, c'est que bah là ils ont annoncé tous les DLC gratuits pour le jeu, parce que ça, je pense que le jeu, il manque quand même un peu de popularité, donc ils essaient de relancer la machine. Donc
bah, surtout qu'un jeu multi où les serveurs sont vides, c'est pas top, hein, quand tu veux en vendre.
Bah, c'est ça, surtout que, bah, le jeu, comme vous l'avez dit, il a été super hypé. On avait, des news quasiment tous les jours avant que le jeu y sorte. Sauf que, malheureusement, il s'est bien vendu au début, mais ça a pas suivi derrière. Et que, bah, il a très vite été relayé, à un jeu de second plan, et que plus personne n'en parlait. En fait, c'est un jeu qui est sorti, mais, deux semaines plus tard, comme beaucoup de jeux sur ces consoles dites next-gen, et bah, on les oublie deux semaines après, quoi.
Bon, ouais, ils ont annoncé les DLC gratuits, par contre, ils ont réaugmenté le prix du jeu.
Normal.
C'est, voilà. En fait, avant, tu pouvais acheter le jeu, je crois, à 5 ou 10 euros. Et par contre, tu payais ton Season Pass ou tes DLC. Et là, par contre, le jeu est passé à 20 euros, mais t'as les DLC gratuits.
Ouais, gratuits, mais pas vraiment. Ouais.
Petit Konami Code en direct de Game Info, c'est que le jeu va arriver Gold très prochainement. Donc, si vous avez un abonnement Gold, eh ben, ne payez pas.
Attendez.
Et voilà. Enfin, si, voilà. Attendez. Et comme ça, vous l'aurez gratuit, plus tous les DLC. Donc,
mais il est gratos en ce moment sur Origin, je crois.
Voilà, donc ne le payez pas ni sur PC ni sur console et vous pourrez y jouer avec tous les DLC offerts.
Bon, allez, c'est terminé pour l'actualité cette semaine. Nous allons passer à notre jeu du moment. Un jeu, ma foi, assez original et ça s'appelle End of Fate. Présenter un peu le concept de End of Fate. Morgan, tu vas valider mon raisonnement.
Ouais.
Je compte sur toi. Je dirais qu'il s'agit d'un pseudo-livre dont vous êtes le héros, où les dés sont remplacés par des cartes, et où l'histoire est générée par les cartes que vous allez tirer dans le jeu, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que, pour vous donner un peu une image, vous incarnez un joueur de cartes qui est face à un espèce de maître de jeu, un maître de jeu qui est doublé avec Maestria, je tiens à le préciser. Vous allez tirer des cartes, et chaque carte correspond à un événement. Par exemple, vous rencontrez une demoiselle, vous avez le choix d'une récompense, quelle récompense choisissez-vous ? Est-ce que vous voulez de la nourriture ? Est-ce que vous voulez une bénédiction ? Ce genre de choses. Tu as d'autres cartes que tu vas tirer qui vont être des cartes rencontres, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des monstres, un groupe de monstres. Là, le mec va aller piocher dans son deck, il va piocher le 2 de sable et le 2 squelettes. Ça veut dire que tu vas affronter 2 squelettes et 2 brigands, en fait. Et voilà, End of Fate, c'est ça, c'est tu te retrouves sur une table, tu as toutes les cartes qui sont posées comme un plan, en fait, et vous avancez case par case, et à chaque nouvelle case, tu tires une nouvelle carte. Et à chaque fois, c'est un nouvel événement, ça peut être quelque chose de positif, de négatif. Bref, quelque part, il y a un côté roguelike aussi, ça ressemble un peu à Faster Than Light par certains aspects. Et donc, tu vas avoir un côté j'avance, j'essaye de m'adapter aux événements qui vont tomber sur la gueule, des fois positifs, des fois négatifs. Et à côté de ça, tu as une autre couche de gameplay, qui est la phase combat, des combats en mode Batman à Arkham.
Oui.
Sauf que tu as une gestion des obstacles en plus. Voilà, c'est tout. Morane, est-ce que tu valides jusque là?
Ah ouais, je valide à 100%. C'est très bien résumé. Je l'aurais pas résumé aussi bien.
Déjà, j'aimerais évoquer avec toi le sujet, vu que quand même, ce jeu, tu ne l'as pas encore terminé, mais il te reste 3 boss, je crois, à éclater. Parce que je précise qu'en fait, il y a 2 modes dans ce jeu. Donc, tu as le mode infini, on va dire, où là, c'est en gros, tu joues jusqu'à ce que tu crèves, quoi.
Ouais.
Et à la fin, on te file un score et faut résister le plus longtemps possible, quoi.
C'est ça.
Et tu as un mode histoire, où là, en fait, tu as une espèce d'armoire avec des cartes qui sont réparties. Et chaque carte représente un boss.
Ouais.
Et ce boss, c'est celui que tu vas affronter à la fin de ta run. Un peu comme le boss que tu as affronté dans Faster Than Light. Sauf qu'à chaque fois, c'est une carte qui va être ajoutée à ton deck. C'est-à-dire que, une fois que tu auras fini ta première run, que tu auras battu ce boss-là, ce boss deviendra, entre guillemets, un ennemi ordinaire que tu piocheras de temps à autre dans ton deck.
Mmh.
Et à chaque fin de run, petit plus, dans le mode histoire, tu vas piocher un certain nombre de cartes que tu auras gagnées durant ta run. C'est-à-dire que durant ta run, en fait, t'as des événements spéciaux qui vont se déclencher. Ces événements spéciaux, si tu les réussis, eh bien, à ce moment-là, tu vas gagner un token, en fait. Et ce token, à la fin, quand tu auras battu le boss, il va se briser, il va libérer un certain nombre de cartes. Un peu comme vous voyez dans Hearthstone en fait quand vous dans Hearthstone quand vous achetez des cartes et que t'as le paquet qui s'ouvre, ben c'est un peu ça quoi en fait. Tu ouvres un nouveau paquet de cartes et c'est des cartes qui vont ajouter de nouveaux événements à ta partie. Et donc du coup à ta prochaine partie, tu auras donc un boss qui sera un ennemi base. Et en plus de ça, tu auras des nouvelles cartes qui vont déclencher de nouveaux événements, etc., qui vont enrichir le jeu. Et je sais pas ce que tu en penses, Mordred, mais je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement bien conçu.
Ouais.
Et qui, par ce biais-là, arrive à pas mal se renouveler, quoi, en fait.
C'est tellement bien conçu que je me suis même demandé si c'était pas adapté d'un vrai jeu de cartes, en fait. Parce que c'est bien équilibré, c'est bien vu, t'as des événements qui sont... ça raconte vraiment des histoires, en fait. Au début, je me suis dit, ouais, bon, c'est peut-être pas... ça donne peut-être pas forcément très envie, comme ça, de voir des cartes. Enfin, de jouer un jeu purement de cartes, et en fait, avec la seconde couche de gameplay sur le côté combat qui sont souvent assez dynamiques et parfois assez relevés.
Sur la fin surtout, parce que des fois, c'est un peu simpliste le jeu.
Parce que moi, très honnêtement, sur les neuf premiers boss, j'ai jamais eu besoin de recommencer en fait. Donc c'est relativement difficile, c'est relativement facile, et après, ça devient assez assez compliqué. Mais ouais, il y a le côté histoire, donc le maître du jeu qui est en face de toi, qui réagit à ce que tu fais, qui se fout de ta gueule, et c'est souvent très marrant. Et en fait, au fur et à mesure que tu montes les échelons et que tu bats ces champions, tu te rends compte que bah lui, il est de moins en moins serein, et c'est assez marrant. La voix off est très très bien faite, comme tu le dis, et réagit à ce que tu fais, et souvent c'est très judicieux en fait. Il y a un moment, par exemple, il te propose de faire telle chose ou telle autre, et là il dit j'aurais pas fait ça à ta place, et c'est ou alors il fait ah ouais, d'accord, drôle de stratégie, mais bon, c'est toi le joueur, hein. Et donc c'est assez marrant de voir comme à quel point il est réactif en fait, et donc c'est souvent bien écrit. Et c'est bien joué, évidemment. Donc j'ai bien apprécié Hand of Fate. J'y ai joué très très longtemps. Alors, je me suis un petit peu arrêté une fois que c'est devenu un petit peu plus compliqué, parce que j'avais pas forcément toujours le temps. Mais ça devient assez compliqué vers la fin, dans le sens où on se rend compte qu'il y a un certain nombre de mécaniques de jeu qui sont parfois compliquées à gérer. C'est-à-dire que vous avez une réserve de nourriture, en fait, qui correspond au nombre de déplacements que vous pouvez faire.
En gros, à chaque fois que tu déplaces d'une case, tu consommes un nourriture, voilà, normalement.
C'est ça. Et donc évidemment, quand tu tombes à zéro, bah tu... Et en fait, à chaque fois que tu te déplaces, tu regagnes un petit peu de points de vie. Tu... Normalement, tu regagnes 5 points de vie. Mmh. Et une fois que bah tu n'as plus de réserve de nourriture, là, tu n'en regagnes pas, mais tu perds des points de vie.
Tu en perds 20. Précis,
et donc là, ça devient très compliqué quand t'as plus de nourriture. Donc il y a des moments où tu espères retrouver un marchand pour acheter de la nourriture. Le truc c'est que si t'as pas d'or, eh ben tu ne peux rien acheter. Mmh. Et donc il faut toujours jauger un petit peu tes besoins dans ce jeu. Et c'est parfois t'as des choix qui sont un peu crève-cœur. C'est-à-dire que tu trouves un marchand qui te vend l'épée que tu veux absolument, qui va te permettre de battre le champion plus facilement parce qu'elle fait plus de dégâts contre les reptiles, mettons. Sauf que bah t'es obligé d'acheter de la nourriture, sinon tu vas crever. Et donc c'est pour ça que je me retrouve un peu dans ce que tu dis sur de la description du côté roguelike. C'est-à-dire que bah il y a des moments en fait où t'es obligé de recommencer ton run parce que t'as pas réussi à faire ce que tu voulais. Et je trouve que End of Fate, ça m'a bien pris, c'est un jeu qui est assez addictif, en fait, l'air de rien. Alors, j'ai pas joué au mode infini encore. Mm. Je sais pas ce que ça donne, mais c'est, j'aime bien ce côté, à chaque fois que tu bats un champion, en fait, tu gagnes des cartes qui sont qui ont des effets plus ou moins bénéfiques ou parfois carrément mauvais pour toi. Mmh. Et qui se rajoutent en fait à ton deck, et donc qui à chaque fois la partie est différente en fait à chaque champion. Et
oui, parce que à chaque effet bénéfique, tu as son pendant, négatif.
Ouais.
C'est-à-dire que, par exemple, t'as des bénédictions, certes, qui vont te rajouter des compétences durant les combats, etc., mmh, mais t'as aussi des malédictions. Genre, tu perds tant de nourriture à chaque fois que tu te déplaces, tu vois, ce genre de truc très agréable, surtout quand t'as pas beaucoup de nourriture.
Ouais.
Et donc, du coup, tu dis, oh putain, vite, faut que je trouve un marchand, parce que sinon, il faut que je trouve quelqu'un pour me enlever cette putain de malédiction, sinon ma run est complètement foutue.
C'est un petit côté Darkest Dungeon, c'est ça?
Ouais, mais plus Faster Than Light, en fait, je trouve. Mm. Je trouve plus proche de Faster Than Light à ce niveau-là. En ce sens que, dans Faster Than Light, t'as aussi cette sensation, tu vois, que... Tu te déplaces, et il y a un moment donné, il va vraiment falloir que tu trouves un marchand. Alors, Darkest Dungeon, c'est plus, je prépare ma run, j'essaie de sauver ce qui peut être sauvé coûte que coûte, mais une fois que je suis à l'intérieur du donjon, je peux plus rien faire, quoi. C'est-à-dire, dans le donjon, t'as personne qui va venir te sauver, quoi, quelque part.
Moi, je parlais quand tu disais que t'avais des effets bénéfiques, mais aussi des effets négatifs, tu vois.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Alors, par contre, là où je lui ferai un reproche, c'est que je trouve que c'est un jeu qui est mal équilibré, en fait. Les 9 premiers boss, comme le dit Mandrain, sont très faciles.
Ouais.
Et puis, à la fin, tu sais pas pourquoi, t'as un pic de difficulté qui apparaît, quoi.
Ouais.
FTL.
Et, non. Parce que justement, moi, FTL, je trouve que c'est un jeu qui est juste, en fait.
Sauf le boss de fin.
C'est-à-dire que dans Faster Than Light, souvent, moi, je me suis dit que c'était de ma faute, tu vois. C'est-à-dire que même quand le jeu est injuste avec toi, il te laisse toujours une chance derrière pour te rattraper, en fait. Par exemple, mon vaisseau il est mal en point, mais si j'optimise mes déplacements pour parce que dans Faster Than Light, je rappelle, quand tu es sur une étoile, en fait, tu vois toutes les étoiles qui sont accessibles à partir de celle-là, et t'as plusieurs chemins. Et du coup, si tu optimises tes déplacements, en fait, tu peux les optimiser de telle manière à ce que tu couvres la plus large zone possible. Et du coup, tu vas essayer de les optimiser pour repérer plus facilement un magasin, en fait.
Ouais, mais le boss de fin, est-ce que lui, c'est dans FTL, c'est vraiment un pic de difficulté quand même, bien.
Ça dépend. Enfin, non, moi, pour moi, oui, il y a peut-être, mais c'est pas comparable avec les soucis qu'il y a dans End of Fate, à savoir que dans End of Fate, pour le coup, c'est un jeu qui est vraiment injuste par moment, quoi.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que des fois, il va s'acharner sur toi, quoi.
Ah oui.
C'est que d'un coup, il y a des moments où tu vas te prendre que des merdes dans la gueule, tu vois. Et comme la progression est assez linéaire, mine de rien, alors certes, des fois, t'as genre, la carte, entre guillemets, t'as le chemin qui se divise en deux branches, tu vois. Mais t'as jamais ce côté Faster Than Light où là, t'as vraiment plusieurs chemins. et tu dois optimiser tes déplacements. Là, tu subis vraiment le jeu. C'est-à-dire, tu avances, ouais. tu avances, et finalement, tu fais pas grand-chose d'autre à part prier pour que tu aies le bon truc, quoi.
C'est ça.
Et si t'as pas le bon truc, bah, ta partie est niquée. Et là, t'es un peu dégoûté quand même. Et pour moi, c'est le principal souci du jeu, c'est ce qui l'empêche de passer de simple jeu vraiment sympa à un jeu vraiment marquant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui se base trop sur l'aléatoire, je trouve.
Ouais.
Il y a certaines actions, en fait, tu choisis de la faire ou pas.
Putain.
Il pioche 4 cartes, en fait. Et sur ces 4 cartes, t'as réussite critique, réussite, échec, échec critique.
Ouais.
En gros, c'est un des 4 que tu lances et t'as un seuil de difficulté, quoi. Il y a des fois, moi, j'ai cet exemple-là, où j'avais 3 réussites, potentiellement, et un échec. J'étais dans la merde, j'étais quasiment mort. Et là, comme par hasard, je tombe sur l'échec. Fin de la partie. Et là, tu peux rien faire. Et c'est frustrant.
C'est très très frustrant. Ouais.
À la fin, en plus, les runs, elles sont pas courtes, quoi.
Non, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure hein, à la fin. Plus trois quarts d'heure à la fin.
Et la mort, c'est mort, quoi. Enfin, tu recommences la run depuis le début, quoi.
Ouais.
Et là, t'es dégoûté. Et moi, je pense que... Alors certes, c'est arrivé que Faster Than Light soit injuste.
Oui.
Mais là, c'est le cran au-dessus, quoi. C'est-à-dire ouais. que t'as pas le choix, tu avances et tu subis, quoi. Et vraiment, pour moi, c'est le principal défaut du jeu. C'est-à-dire qu'il y a un souci d'équilibrage, je pense. Et le jeu ne te donne pas assez de chance, en fait, de te rattraper, quoi, quelque part, je trouve.
Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, vers la fin, t'es jamais préparé à ce qui va t'arriver à la tronche. Mmh. Et même si à chaque seuil, en gros c'est tous les trois champions, vous avez des équipements supplémentaires, d'éventuelles bénédictions et tout. Mmh. À ce stade-là, en fait, vers le quatrième acte, quoi qu'il arrive, vous allez être vraiment pas préparé à ce qui va arriver en fait. Et donc ce qui fait que si dès le début vous commencez déjà à galérer. Mais alors la fin du niveau, c'est fini quoi. C'est même pas la peine.
Et sauf si vraiment t'as d'un seul coup du bol et que tu chopes plein de bénédictions des trucs, ouais. Mais sinon c'est mort quoi.
Mais et moi j'ai exactement les mêmes exemples que toi avec le coup des D4 là. Sauf que moi généralement c'est une réussite pour trois échecs. et là je fais putain mais les mecs sérieux aidez-moi quoi. Et donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment j'ai commencé à rager et j'ai un petit peu laissé tomber le jeu parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ça devient un peu pénible, genre t'arrives au champion et t'as 30 points de vie et là c'est chaud quoi.
Et encore, toi, t'as pas fait le dernier boss, hein, parce que
ouais, bah non.
Quand tu vas te bastonner avec le maître du jeu, alors je vous explique, en gros, les cartes sont divisées en strates, c'est-à-dire que tu dois arriver à la fin de la carte, tu passes sur une autre carte en fait. Mmh. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque nouvelle carte, tu te tapes une malédiction.
Oh.
Va finir le jeu maintenant. Et j'en ai chié, putain, mais j'en ai chié. Et là, c'est franchement juste trop punitif, quoi. C'est le jeu passe en mode difficulté, mais pas la bonne difficulté.
Ah, mais ça
quoi.
Devient hardcore. Hein.
Voilà, c'est difficulté. Si t'as pas de la chance, voilà quoi. C'est mort. Ouais. Je pense que les mecs se sont rendus compte que leur combat était trop facile, en fait.
Mmh.
Et du coup, ils ont voulu équilibrer. C'est-à-dire que comme les combats sont trop faciles. Et que ils se sont pas assez penchés dessus pour que le skill prenne une part importante dans le jeu, quoi.
Ouais.
Du coup, ils ont cherché à compenser autre part. Et pour compenser autre part, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le joueur ait des malus. Du coup, ils ont mis le paquet sur les malus, quoi.
Ouais.
Et ils y sont allés un peu trop fort. Et du coup, c'est mal équilibré, quoi. Et moi, je pense qu'ils ont pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que ils auraient dû prendre plus le temps de se pencher là-dessus pour que, en fait, il y a moyen de te rattraper avec les phases de combat, quoi. Et où il n'y a pas que les combats, d'ailleurs. T'as aussi des phases de donjons, par exemple, où c'est des donjons avec des pièges, si vous voulez. Où là, c'est plus de l'adresse, quoi. Ah, ok, là, il y a une séquence, il va falloir que je cours, que je fasse un saut, etc. Ouais. Pour éviter les pièges. Au lieu de s'attarder sur le game design de ces phases-là, où, finalement, le joueur s'est pénalisé parce qu'il a pas de skill, et pas parce que il a tiré la mauvaise carte, tu vois. Ils ont mis le paquet sur les cartes, et du coup, le jeu devient injuste. Et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il y a un gros souci d'équilibrage à ce niveau-là. Et finalement, j'ai passé vraiment un bon moment sur ce jeu. Mais la fin a vraiment été pénible, et je pense que gagnerait à s'attarder un peu plus sur les combats, qui finalement ne sont que du Batman Arkham, mais un peu basique, quoi.
Ouais.
Sauf que t'as une gestion des ces obstacles que je trouve un peu sympa, mais qui est pas assez exploité dans le gameplay, en fait. Et même t'as du Friendly Fire aussi, que je trouve vraiment très intéressant. Rééquilibrer le jeu pour mettre plus d'emphase sur la partie skill du jeu, en fait. Et moins sur la partie aléatoire, quoi. Parce que ce qui fait que Faster Than Light est un jeu vraiment excellent, c'est que même si t'es dans la merde, si tu joues très bien, il y a vraiment moyen de te rattraper, quoi, quelque part, derrière.
Ouais.
Bon, même si ça arrive que Faster Than Light soit injuste aussi, hein. Attention, je ne dis pas non plus que, voilà, entendez-vous bien. Mais là, c'est vraiment le degré au-dessus et je trouve ça dommage, quoi.
Ouais. Moi, bah, je suis assez d'accord avec toi. C'est dommage parce que j'ai passé un super bon moment sur les 9 premiers niveaux et après quand c'est devenu vraiment trop dur, j'ai commencé à lâcher un petit peu la manette. Donc c'est
après entendons bien, hein, le jeu il est finissable, hein, y a pas de souci.
Oui oui, carrément.
C'est pas non plus une difficulté insurmontable, c'est pas super mid-buy, quoi, si vous voulez. Mais c'est un jeu qui est injuste. Et même si le jeu n'est pas d'une difficulté fondamentalement insurmontable, quand un jeu est injuste, que t'as l'impression que c'est pas de ta faute, t'as pas envie de le finir.
C'est ça.
Il y a rien de plus frustrant que ça, en fait.
C'est voilà. Exactement ça. C'est au bout d'un moment, ça devient frustrant et moi j'aime pas du tout jouer pour être frustré. Du coup, je l'ai laissé un petit peu de côté.
Bah moi, ça me dérange pas d'être frustré, mais il faut que ce soit de ma faute.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est en fait parce qu'en fait moi là, ce que tu es en train de dire, moi ça me pose aussi exactement le même problème, c'est-à-dire un jeu qui est dépendant de la RNG et que. Bah si c'est dépendant juste que de ça et de choix, mais genre s'il me demande
alors,
de choisir.
Attends, hein, c'est pas dépendant que de ça, mais c'est trop dépendant de ça, quoi. Il y a le degré, il y a le curseur est pas bon, quoi.
Si tu te demandes de choisir entre des cartes, par exemple gauche droite, enfin entre quatre cartes et que tu sais pas ce qu'il y a derrière et que tu t'en prends une au hasard, bah c'est vraiment de l'aléatoire puisque tu peux pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Donc moi la question que j'ai à te poser à toi, parce que je suppose que t'as fini le jeu, c'est est-ce que voilà tout l'aspect narration etc. ça t'apporte quelque chose à la fin que tu as, je sais pas, les histoires sont imbriquées ou bien une révélation, un truc comme ça qui te montre quelque chose que, enfin, pourquoi t'as fait tout ça, parce que le jeu s'appelle quand même La Main du Destin, donc je suppose que ça a un lien avec la trame.
Bah, ça, c'est en rapport avec le gameplay, hein, tout simplement.
Ouais, mais bon, est-ce que ça, quand tu finis le jeu, ça, voilà, il y a quelque chose qui...
Non, non, mais ce jeu, et quand on t'entend bien, c'est un jeu qui a une super ambiance, mais tu joues pas pour l'histoire, quoi, enfin, non, enfin, c'est sympa, certes, mais c'est pas pour ça que tu vas y jouer, tu vas y jouer pour son gameplay, et si le gameplay te plaît pas, bah, forcément, voilà. Moi, je pense, voilà, c'est un jeu sympa. Vraiment, j'ai passé un super moment dessus, mais sur la fin, il y a un gros souci d'équilibrage qui n'est pas, enfin, c'est tout à fait corrigeable, hein. Mais voilà, d'un jeu qui aurait pu être indispensable, tu vois, pour les amateurs de roguelike, c'est un jeu sympa à faire en solde, quoi. Pour moi, il est original, il est vraiment très intelligent, mais il y a des soucis d'équilibrage et moi, ma suggestion ce serait d'attendre que ces soucis soient réglés, quoi. Morane, tu...
Non, moi j'ai rien d'autre à ajouter. T'as très bien résumé le jeu, donc c'est con parce que moi j'aurais vraiment voulu le conseiller, mais genre tout de suite. Mais voilà, je pense que
Qu'il est original et ça fait plaisir, quoi, quand même.
Ouais,
c'est
vraiment
c'est rafraîchissant.
C'est très rafraîchissant. Et moi, quand tu m'as dit ouais c'est un jeu de cartes, je fais oh encore un jeu de cartes. Et après quand tu m'as dit ouais mais il y a du combat, je fais ah. Là, ça m'intéresse. Et c'est vrai que c'est très agréable à jouer.
C'est très agréable, c'est très intelligent. On n'a pas détaillé tout le système de jeu, mais le système de bonus-value, c'est vraiment bien pensé. Mais je trouve que la manière dont il est conçu, du coup, l'empêche d'exploiter à fond ce système, quoi. Parce que comme les combats sont trop simples, du coup, le système de bonus-manus, finalement... Alors certes, il est intéressant pour certains boss, mais il n'est pas assez exploité, quoi, je trouve. C'est dommage.
J'ai une question, justement. Voilà. Est-ce que, par rapport à ce niveau d'équilibrage, est-ce que c'est un jeu qui a un early access ou c'est une sortie finale?
Ah non, il est fini. C'est un jeu qui avait été financé sur Kickstarter, d'ailleurs.
Ouais.
Et bravo. Parce qu'ils n'avaient pas un énorme budget. Et franchement, je crois qu'ils avaient $30,000. Moi, franchement, je suis bluffé par ce qu'ils ont réussi à faire. Enfin, voilà. Alors ça, par contre, j'aimerais les féliciter pour ça. Voilà un exemple de mec... Ils ont eu un budget où il y avait que dalle. Et ils sont adaptés à leur budget, quoi. Et franchement, c'est un jeu qui est super bien fini pour le budget qu'il a eu, quoi. Mais vraiment, en termes de finition, de qualité des dialogues, parce que franchement, le doublage, on n'a pas assez parlé, mais extraordinaire, quoi. Au niveau du doublage, c'est un jeu qui est vraiment très, très, très bon. L'acteur qu'ils ont chopé, pour le maître de jeu, il est excellent, quoi. C'est du niveau de Stanley Parable pour moi. Et vraiment, s'il a fait que moi, au final, j'ai passé un moment super sympa, malgré la frustration que j'ai pu avoir, c'est aussi grâce à ça, c'est que c'est un jeu qui a une ambiance, quoi. Et parce que là, attention, la manière dont on a parlé, on peut penser que j'ai passé un mauvais moment, etc. C'est pas le cas. Hein.
Ouais.
J'ai passé un bon moment, mais
il y a des choses à corriger.
Attention, c'est pas un jeu à mettre dans toutes les mains. Si vous êtes de ces gens qui ne supportent pas qu'un jeu s'acharne sur vous par moment, c'est clairement pas pour vous. Quoi. Alors si vous pouvez vous en accommoder et profiter du gameplay, allez-y quand même, quoi. Mais attention, c'est clairement pas un jeu à mettre dans toutes les mains. Mmh. Et clairement, si vous avez le choix entre Faster Than Light et celui-là, allez sur Faster Than Light, hein. Voilà.
Oui, bon, ça a pas grand-chose à voir d'un point de vue visuel, mais d'un point de vue mécanique,
il y a des trucs. Ça y ressent quand même.
Ouais, carrément. Donc ouais. Non, c'est franchement un jeu très sympa. Je pense que si vous vous reconnaissez un petit peu dans l'originalité du projet, il y a moyen que ça vous plaise, quoi.
Voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine, messieurs.
Mmh. Oui.
On va vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, messieurs dames. Toi Ben, par contre, on te dit pas la semaine prochaine.
Je ne pense pas, ça va être compliqué, ouais.
Parce que tu es viré.
Exactement.
Viré.
Il y a besoin de faire des économies sur les salaires, alors. Hein. Je suis premier, dernier arrivé, premier à sauter, c'est normal.
Morane, on compte sur toi.
Merci. Je serai là.
Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Salut.
Ciao.